3 aspirines. 2 dafalgan.
Trois aspirines, 2 dafalgan.
Trois aspirines, 2 dafalgan pour cette émission depuis culte en ce samedi, samedi 3 août déjà. On est en direct depuis culte dans le village. Au possible, culte 48 FM, et on remercie Diego à la technique, et on retrouvera Sandy avec nous. Bonjour Sandy.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Valérie.
Bonjour.
Et donc nous sommes trois blanches privilégiées, et nous allons vous parler de décolonisation de l'Afrique, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et on a le droit de le faire vu nos privilèges.
Tout à fait, effectivement, nous sommes des bonnes personnes pour parler de cela. Quelqu'un n'est pas d'accord avec ce privilège de la blancheur?
La question, c'est pas question de privilège ou quoi, mais c'est vraiment un questionnement, une thématique qui concerne tout le monde, que ce soit qu'on soit africain ou qu'on soit européen, parce que tous on a hérité du bagage colonial. Donc aujourd'hui, c'est à nous de décoloniser nos mentales.
Bonjour Betty.
Bonjour Betty.
Bonjour à tous.
Mais donc voilà, les privilèges, eh bien, on est en plein dedans avec Esperanza, puisque c'est démasquons nos privilèges. Et Valérie, tu as fait la découverte du siècle ce matin.
Oui, c'est ça, en lisant un article, mais justement sur la notion de privilège blanc. Et je me suis dit comme intro que j'allais pas passer à côté, parce que c'est vraiment hyper important. Où en fait, il y a la notion de privilège qui est remise en question dans la lutte contre le racisme. En fait, il n'y a plus de consensus. Donc comme ici, c'est démasquons nos privilèges, moi je trouvais ça intéressant d'en parler. Donc parce qu'il y a effectivement une focalisation d'une certaine gauche par rapport à la notion de blanchité, c'est comme ça qu'ils l'appellent, hein. Donc qu'ils estiment maintenant en fait contre-productive dans la lutte contre le racisme. Donc ils remettent ça en question en fait. Puisque cette focalisation donc de la blancheur conduirait en fait les blancs et les blanches à se considérer comme un groupe racial à part. Bon, la question c'est que je pense qu'ils se considèrent déjà comme un groupe racial à part, mais bon, soit quoi. Et donc en fait, l'effet par rapport à ça, c'est un repli identitaire et une défense de leurs privilèges, justement. Donc en les identifiant comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se ferme. Et donc quand on se ferme, on est encore plus opposé à l'autre, puisqu'il devient encore plus loin de nous, quoi. Et c'est un petit peu aussi une façon de faire disparaître une lutte pour les droits fondamentaux. Et donc c'est comme si on cantonnait l'action en fait, de lutte contre le racisme dans l'affaire du superflu et de l'accessoire. De toute façon, on doit être privilégié, et donc on va en rester là. C'est comme en fait mettre un pansement couleur chair, et se dire, ok, on voit plus, mais en dessous, il y a encore la blessure, quoi, donc c'est un peu débile. Donc voilà, donc ils remettent ça en question. Et donc, ce qu'ils proposent, en fait, c'est que, en plus, en faisant ça, la notion de privilège des blancs, donc ce privilège blanc, on exclut aussi tous les pauvres blancs. Donc, qui, du coup, ne sont pas éduqués à cette notion de lutte contre le racisme, parce qu'ils se sentent déjà exclus aussi de ces privilèges-là, quoi. Et donc, ça amène, de toute façon, un comportement individuel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On compartimente de nouveau, quoi. Alors, il y a les LGBT, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a le racisme, il y a ceci, il y a cela. Et donc on ne parle plus qu'en termes de privilèges. Et donc on en revient juste à des notions de privilège masculin, privilège cisgenre, donc je suis en accord avec mon genre, le privilège du validisme, donc par rapport à la personne ayant un handicap. Et donc quelque part on ne parle plus que de personnes privilégiées. On ne parle plus que de ça, et on ne parle plus du vrai combat qui est la lutte quelque part contre le racisme. Et donc ça amène à des débats stériles. Et donc ici, il y a un exemple que je trouve fabuleux, que je voulais vous donner, qui vient en fait d'une écrivaine nigériane qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie, je ne connais pas, donc qui a écrit un bouquin qui s'appelle Americana, et nous sommes tous des féministes, donc qui est vraiment quelqu'un d'engagé, etc. Et qui, en 2017, a suggéré dans une interview que les femmes transgenres noires ne sont pas des vraies femmes, parce qu'en fait, elles sont nées avec un privilège masculin. Et donc, quelque part, elle compartimente de nouveau la notion de privilège. Donc, c'est quelqu'un qui a été victime de racisme, qui est américain, donc qui parle de tout ça, mais qui après fait encore une distinction elle-même dans la communauté noire. Donc, c'est quand même un peu dommage. Et donc, en fait, tout le combat, il est plutôt dans l'éducation de considérer l'autre, de découvrir l'autre, et de le considérer comme une personne égale et humaine, dans les mêmes droits fondamentaux, quoi. Et donc, toute la question est là, donc, que... En fait, il faut arrêter de nommer le privilège blanc en disant que ça aura des effets sur le racisme. En fait, il faut abolir le racisme simplement en apprenant à connaître l'autre et à agir quelque part sur un système législatif et non sur des privilèges. Et donc moi, je trouvais ça super intéressant comme article, donc je voulais le partager avec vous. Voilà, c'est fait.
Merci.
Merci.
Des réactions peut-être par rapport à tout ça, ces privilèges et qui, finalement, si on se focalise sur les privilèges, ben, on en oublie le reste.
Mais c'est vrai que c'est pas vraiment une question, mais hier, j'ai interviewé le groupe Delgrès qui ouvrait le festival, et à un moment donné, le chanteur me dit, mais moi, je suis quand même un petit peu perturbée, je suis un petit peu confus par rapport à toute cette question de privilèges, parce que j'ai l'impression qu'en parlant toujours de privilèges, finalement, ce qu'on fait, c'est juger. Donc, ça revient exactement à ce que tu disais, Eddie. Donc, moi, je me méfie de ce type de thématiques qui sont hyper importantes, il faut pouvoir en parler. Mais est-ce que là, on ne devient pas un peu dans un discours moralisateur et on ne se dit pas un petit peu « j'ai la bonne parole et je sais comment faire ».
Oui, ça rejoint un peu, moi aussi, ce que je... Effectivement, on recrée de nouveau des loges, des cases, et on oublie un débat commun, quoi, quelque part. Et on ne va pas vers l'autre. On se centre sur soi, en fait. On revient dans un truc communautaire. Je suis privilégiée. Non, la bonne question, c'est « je vais vers l'autre ». Et voilà. Et tout le monde a les mêmes droits. Ce n'est pas un privilège, non. Le but, c'est que tout le monde ait la même chose, quoi. Donc, voilà, moi, ça, c'était... Et c'est vrai qu'on reste à un niveau très individuel. Et c'est le but, justement, c'est que ça devienne collectif, une action collective, quoi. Et te pointer du doigt et dire, mais toi, tu es privilégié, on te remet dans ton état d'individu et pas de conscience de l'autre, quoi. Voilà.
Ce que tu disais, Betty, au début aussi, c'est que, finalement, par exemple, la décolonisation, c'est quelque chose qui concerne autant les pays décolonisés aujourd'hui, mais aussi les pays, enfin les descendants des colonisateurs finalement, qui doivent aussi apprendre, enfin nous devons apprendre à déconstruire aussi tout ce qu'on nous a appris. Et c'est vrai que si on reste avec notre statut de colonisateur.
Il y avait le colonisateur qui avait tant de privilèges dans des colonies, donc dans des colonies, oui. Et aujourd'hui, donc, c'est comme si les descendants des colonisateurs. Des colonisateurs, et ils ont été, on leur a raconté l'histoire, mais par rapport à toutes ces inégalités de race qui a existé dans l'ancien temps, alors c'est par innocence que cette descendance a grandi avec tous ces bagages coloniaux. Mais à la fin, aujourd'hui, comme on s'est dit, il n'y a plus de personnes privilégiées et d'autres qui ne sont pas privilégiées. Alors la question de décolonisation, ça nous concerne tous. Est-ce qu'on doit sortir encore de ces camps de l'individualisme et arriver au plan collectif, donc, qui concerne tout le monde?
Non, je n'avais rien à rajouter.
Voilà, donc on est donc un peu donc ici toujours dans le village des possibles, vous entendez, et donc il y a concert de slam en ce moment. Et donc oui, pour répondre à Betty, parce qu'on parlait en même temps de trucs techniques, oui, bah voilà, moi je suis une fille, je suis une petite fille de colonisateur. Mon grand-père donc a embarqué sa famille pour aller travailler au Congo. Ils avaient une maison, ils avaient un boy, ils avaient une voiture, ils avaient un chien. Je sais pas si ils m'ont toujours parlé du chien, en fait. Je vois pas ce que le chien va faire là-dedans, mais bon, bref. Et oui, donc j'ai grandi aussi avec mon grand-père qui me disait que les Noirs sont fainéants, que c'était pas évident de leur apprendre des choses. Mais après, oui, on se déconstruit, en fait, comment ? Heureusement qu'on le fait. Mais donc, ouais, je crois qu'il y a tout un travail dont on va parler aujourd'hui, hein, tout ce travail de décolonisation qui doit se faire dans les esprits, mais des deux côtés, en fait, Betty.
Oui, des deux côtés. Bon, en fait, quand j'ai commencé un peu à exploiter cette thématique, c'était plus en 2018. Fin 2017, début 2018. Et à la fin, bon, en fait, je... Au premier rang, je pensais que ça ne concernait que les Congolais. Et donc, je me disais, en suivant plusieurs actions dans la société, tout ce qui se passe dans la société et qui se passe d'une façon habituelle, donc une routine, on croit que après avoir chanté l'indépendance en 1960, c'est quand on était libérés, on était vraiment indépendants.
C'est la fameuse chanson, là, Indépendance
Tcha-Tcha.
On
l'a diffusée ici aussi. Enfin, moi, mon père avait le
disque.
Oui,
c'est ça. C'est
Indépendance Tcha-Tcha.
Oui, ça, c'est une chanson qui a été composée pour célébrer, effectivement, cette indépendance. Mais à la fin, quand on observe la société, il y a ces clichés ces séquelles de colonisation qui persistent. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette thématique de la décolonisation et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dessus. Et après, en arrivant ici en Belgique, j'ai eu à rencontrer Guido Convens qui est le directeur du festival Africa Film Festival, un festival de films africains mais en Belgique. Alors, il a été parmi les personnes qui ont demandé à ce que le musée des Terres Vuraines soit décolonisé. Et c'est comme ça qu'avec un débat que j'ai eu avec lui, effectivement, j'ai compris que la Belgique a aussi besoin de se décoloniser. Parce que avec moi, je me disais, c'était seulement au Congo de se décoloniser, que la Belgique arrête de mettre la main sur le Congo et tout. Mais à la fin, on s'est rendu compte qu'il y a ces bagages, cette histoire qui a été mal transmise, de l'image de l'Afrique, de l'image du Congo et qui persiste dans les têtes des descendants des colonisateurs. Et voilà, donc cette descendance aussi a besoin d'être décolonisée. C'est comme ça que j'ai découvert que le processus était vraiment double.